Radio Kapi.
À la suite du non-respect des recommandations de Luanda, Nairobi et de l'Organisation des Nations Unies, le gouvernement congolais à travers le ministère des Affaires étrangères exige de l'Union africaine, l'ONU, l'EAC et la CRGL de carrément sanctionner les autorités rwandaises et les dirigeants du M23 selon leurs mécanismes et règles propres. Actualité à suivre en ouverture de ce journal. Nous vous parlons également de cette interpellation et rappel à l'ordre des agents commis à l'identification et enrôlement des électeurs. Tout monnayage pour valoir un accès au bureau d'enrôlement est passible des sanctions une fois les cas avérés. Professeur Maindo est notre invité en fin de ce journal. D'après lui, des réformes importantes des services de sécurité et des forces armées de la RDC sont nécessaires afin de leur permettre d'assurer efficacement la protection de l'intégrité du pays. Fidèles auditeurs, sous peu, nous vous déroulons les différents contours de l'actualité congolaise. Bienvenue et bonjour à toutes et à tous. Le gouvernement congolais prend acte du refus répété du M23 d'exécuter les prescrits du plan de paix établi par le mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022 dans le cadre des processus de paix de Nairobi et de Luanda et en application des recommandations du Conseil de sécurité des Nations Unies. Déclaration du vice-premier ministre des Affaires étrangères dans un communiqué publié ce mercredi en rapport avec la situation sécuritaire au Nord Kivu. Dans ce communiqué, Christophe Lutundula rappelle que selon la programmation établie par les chefs d'état-major généraux de l'EAC à la date du 15 janvier 2023, les terroristes du M23 devaient, en application du communiqué du mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022, quitter toutes les zones occupées en territoire congolais. Cela pour permettre le rétablissement de l'autorité de l'État dans ces zones et le retour des populations congolaises à leur domicile. Les détails avec vous, Alain Irung.
Dans ce communiqué, le gouvernement congolais prend aussi acte du non-respect du Rwanda des engagements pris dans le cadre des processus de Nairobi et de Luanda et du mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022, ainsi que son refus de cesser de soutenir le groupe terroriste du M23 et d'agresser la RDC. Il interpelle l'ONU, l'Union africaine, la communauté des pays d'Afrique de l'Est, la CIRGEL et les partenaires bilatéraux et leur demande de prendre leurs responsabilités, notamment en sanctionnant selon leurs mécanismes et règles propres les autorités rwandaises et les dirigeants du M23 qui ne cessent de les défier et de violer le droit international ainsi que les droits fondamentaux de l'homme à l'est de la RDC, poursuit le communiqué. Quoi qu'il en soit, tout en renouvelant son engagement dans les processus de paix de Nairobi et de Luanda pour le règlement de la crise sécuritaire à l'est de la RDC et pour l'instauration d'une paix ainsi que d'une stabilité durable dans la région des Grands Lacs, le gouvernement de la RDC assumera toutes ses responsabilités constitutionnelles pour sauvegarder l'intégrité territoriale ainsi que la souveraineté de l'État congolais. Il n'entend point faiblir ni transiger avec personne quant à ce, indique le communiqué.
Par ailleurs, la RDC est prête à toute éventualité et se défendra par tous les moyens dans la ligne droite de la déclaration du chef de l'État le 20 septembre 2022 à la 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU, conclut le communiqué. Dans le Nord Kivu, environ 1000 nouveaux ménages sont arrivés le week-end dernier dans le site des déplacés de Kanyaruchinya en territoire de Nyiragongo. Ils sont venus des villages de Kishishe et Bambo en groupement Tongo et Bambo, territoire de Rutshuru. Ils déclarent fuir les atrocités des rebelles du M23 dans cette région. Les humanitaires ne confirment pas toutefois ces chiffres. Ces nouveaux ménages viennent s'ajouter sur d'autres milliers dans ce site qui vivent dans la précarité indescriptible. Le président de ce site indique que l'heure est à l'enregistrement de ces nouveaux venus. Théo Moussekoura lance ce cri d'alarme car ces déplacés sont dépourvus de tout, dit-il.
Nous avons encore accueilli 800 ménages de déplacés qui sont dépourvus de tout, mais également d'autres provenances de Kishishe, Rugari et Tongo, qui ont fui les habits commis par les M23 et qui continuent d'incendier les maisons des habitants et ont tué des femmes dont les corps ont été enfouis dans les toilettes. Nous avons aussi accueilli 300 ménages et autres 180 ménages qui sont dans les sites de Nyakabanda. Nous les avons tous logés dans une nouvelle école construite à l'Epemboga. Certains aussi sont dans un nouveau site méthodiste étroit, tandis que d'autres à Nyakabanda, ils sont dépourvus de tout. Voilà pourquoi nous lançons ces cris d'alarme afin de voir comment leur venir en aide. Ils ont besoin des ustensiles de cuisine, des couvertures pour se couvrir des nattes et de la nourriture. Ceci pour voir comment ils peuvent survivre momentanément en attendant la fin de la guerre. Ce qui va nous permettre de retourner chez nous pour poursuivre avec notre vie.
Depuis quelques jours, des jeunes de la commune rurale de Mangina, retournés dans leur milieu, se lancent désormais dans plusieurs activités entrepreneuriales. Une satisfaction pour le comité communal de la jeunesse qui appelle le gouvernement à appuyer les initiatives de ces jeunes qui contribuent déjà à la stabilité de la région. Marc Marofimbo pour des précisions.
Ces jeunes retournés sont actifs dans différents secteurs d'activité, tant individuels que collectifs, dans la commune rurale de Mangina, ce qui est une source de revenus pour leur survie. Des initiatives auxquelles viennent s'associer d'autres jeunes, comme l'explique Rigen Makamba Douchouma, président de la jeunesse de la commune de Mangina.
Il célèbre très bien car il y a ceux-là qui sont en train de faire même la mototaxi et il y a aussi d'autres qui sont propriétaires de grands ateliers, des scieries. Ils sont en train de nous fabriquer le meuble, des ménages. Certains sont en train de passer aussi à l'agronomie, agro-pastorale. Ils sont des éleveurs et ils sont en train de nous aider avec la viande et ils sont en train de gagner leur vie à travers ces métiers-là.
Rugel Makamba demande également aux autorités provinciales et nationales d'appuyer les initiatives de ces jeunes. Selon lui, cela peut encourager d'autres jeunes qui traînent encore dans les lieux où ils sont à déplacement à cause de l'insécurité à regagner Mangina. Cela pourrait également aider à la stabilisation de la région qui est encore sous menace des groupes armés constitués essentiellement des jeunes du milieu, précise-t-il. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Actualité dans la province du Tanganyika, la gouverneure appelle les jeunes à s'enrôler massivement dans la police pour combler l'effectif insuffisant de la police afin de lutter contre l'insécurité dans la ville de Kalemi. Julie Ngungwa a lancé cet appel ce mercredi au cours d'un meeting populaire à la place Kisebwe à son retour de Kalemie en provenance de Lubumbashi. Le point avec Paulin Munanga.
Dans son message à la population, la gouverneure du Tanganyika reconnaît que la ville de Kalemie est secouée par le banditisme. Face à cette situation, Julie Ngungwa rassure la population qu'elle va se battre pour lutter contre cette insécurité à Kalemie. À cet effet, elle appelle les jeunes à s'enrôler massivement dans la police. D'après l'autorité provinciale, l'effectif de la police est insuffisant et il doit être renforcé pour bien assurer la sécurité dans la ville de Kalemie. Elle promet par la même occasion de doter la police des véhicules et des motos pour faciliter la mobilité des forces de l'ordre. Elle a par la même occasion appelé ses administrés à vivre dans l'unité. La gouverneure du Tanganyika a par ailleurs lancé un appel à la population d'aller se faire enrôler massivement lors des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs qui vont débuter dans quelques jours dans la province du Tanganyika. Kalemi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, tout requérant de la carte d'électeur dans la ville de Kinshasa à qui on exige de l'argent pour obtenir sa carte est appelé à dénoncer avec preuve pour que le centre d'inscription incriminé subisse des sanctions. Déclaration de la secrétaire exécutive provinciale de la CENI à Kinshasa faite ce mercredi à Radio Okapi. Anne-Marie Moukoyan-Zompundu réagit aux multiples accusations, notamment des acteurs de la société civile, sur le monnayage de cette opération d'identification et d'enrôlement des électeurs en cours dans la première ère opérationnelle. La chef de la centrale électorale au niveau de la capitale rappelle que cette opération est gratuite et tout le monde est censé respecter cet ordre au risque de subir la rigueur de la loi. Anne-Marie Moukoyanzo le dit à Grace Amzati.
Dans l'histoire de la corruption, il y a toujours les corrompus et les corrupteurs. Sur cette question de monnayage, c'est pareil. Il y a ceux qui demandent de l'argent et il y a ceux qui donnent. C'est sur ça que je suis en train vraiment de marteler chaque fois que les gens se mettent en tête que la délivrance de la carte d'électeur est gratuite. Donc personne ne peut leur obliger de donner de l'argent pour quoi que ce soit. Qu'ils se mettent en ordre, qu'ils aient leurs documents exigés, qu'ils suivent la procédure et qu'ils suivent aussi la file d'attente. Donner l'argent est une infraction et demander l'argent aussi c'est une infraction. Donc c'est pour cela que nous nous mettons toujours derrière tous ces cas pour sanctionner là où nous avons les preuves, nous sanctionnons, nous ne laissons jamais passer. Donc nous demandons à la population d'être vigilante. On vous demande l'argent, si vous donnez, essayez de prendre des preuves pour que vous puissiez nous signaler et nous à notre tour, nous allons sanctionner les centres là où on vous a demandé de l'argent.
Retour dans la province du Nord-Kivu. Les enseignants membres des syndicats Sieko et Sinekat ont déclenché ce mercredi un mouvement de grève dans toutes les écoles publiques de la ville de Beni. Ils revendiquent la majoration de leur salaire par le gouvernement. Guylaine Kassassia a fait le tour de certaines écoles, voici son reportage.
Ce mercredi, plusieurs écoles primaires et secondaires publiques de Beni étaient fermées. C'est par exemple l'école primaire Kilewe, Mbene, Kilokwa, Mapendano et l'Institut de Beni. Quelques élèves qui se sont rendus à l'école ont été obligés de regagner leur domicile après avoir constaté l'absence des enseignants. Christophe Kanyambwe, secrétaire permanent du syndicat des enseignants du Congo section de Beni, revient ici sur les revendications des enseignants.
L'année a commencé à botté alors qu'elle devait commencer par une grève. Mais lorsque le gouvernement a vu que la grève était à la porte, nous a évité en Bouela. On a signé une feuille de route avec certaines activités qui devaient être faites dans les 4 premiers mois. Parmi les promesses qui devaient être réalisées, on devait d'abord payer chaque enseignant de l'école primaire 20 000 francs appuyé sur la prime de gratuité, chose qui n'a pas été faite. On devait majorer les salaires des enseignants du primaire et du secondaire à la hauteur de 30%. Ça avoisinait 66 000 francs ou 69. Et jusque-là, le gouvernement n'a payé que 30 000 francs. Et à Beni, nous avons aussi un problème particulier que nous réclamons, c'est la mutuelle de santé. Nous
contactons le chef de la sous-division de l'EPST à Beni annonce la tenue d'une réunion urgente avec les gestionnaires d'école pour voir comment les enseignants peuvent reprendre les chemins de l'école le plus tôt possible. Beni, Guylaine Kassassia, Radio Okapi.
Lutte contre la faim dans le territoire de Massimanimba, province du Kwilu, précisément dans le secteur de Mosango. Le Conseil agricole de gestion rurale de ce secteur, CARG, organise du 18 au 19 janvier 2023 un atelier de formation à la mission catholique Tumikia à l'attention des leaders d'opinion sur l'aviculture et l'élevage des volailles. Ils sont plus de 20 personnes venues de la DAIC, Dynamique Action Communautaire des Tumikia, qui prennent part à ces assises de 2 jours. L'objectif de la dite activité est de produire la nourriture localement afin de lutter contre la malnutrition qui est accentuée dans ce coin, a déclaré le coordinateur du SCARG du secteur de Mosango, Jules Mukwela. Il est joint par Irène Beaumont.
Avec le savoir-faire local, chaque ménage a au moins une poule ou 2 ou 3 poules. Mais ces poules-là ne sont pas encadrées. Il y a négligence totale. C'est pourquoi nous, on a initié ce qu'on appelle les dynamiques actions communautaires. DAC, ils vont envoyer les gens qui ont un niveau de type. Nous allons les former, généralité de l'élevage de volailles. En plus, comment traiter des poules à base de plantes. Donc, c'est l'élevage bio. Depuis nos ancêtres, il n'y a eu pas des encadrements pour l'élevage de poules. Pourquoi? Vraiment, nous cherchons à donner un peu de goût, un peu de bon sens sur l'élevage de poules. L'objectif, c'est vraiment de produire la nourriture dans nos milieux. Il y a un problème de la malnutrition qui est vraiment accentué. Nous voudrions qu'au niveau local, les gens se prennent en charge avec l'élevage de volailles. Donc, nous voulons bien vraiment produire les œufs, produire de la viande, au lieu de dépendre de Kinshasa, qui nous envoie des poules. Les histoires comme ça.
Nous poursuivons avec la série de reportages que nous avons amorcés sur la province du Lualaba. Celui-ci compte beaucoup de gisements miniers, plusieurs investisseurs y affluent. D'autres y sont déjà opérationnels. Le secteur minier contribue efficacement au budget national et les entreprises minières du Lualaba sont comptées parmi les plus grandes du pays. Leur rapport au budget national est non négligeable. Jean Gandou pour la suite de notre série portant sur le Lualaba et ses atouts.
Parmi ces entreprises, on peut citer notamment Tenke Fungurume Mining, Kamotokop et compagnie, Kamoa, Mutanda Mining, Metalcol ou encore la compagnie minière de Moussonoï, commis en sigle. Les principaux minerais qui sont exploités sont notamment le cuivre, le cobalt et l'or. La contribution de ces entreprises au budget national dans le secteur minier est de plus de 60%, rapportent les ONG spécialisées dans ce domaine. Selon les dispositions du code minier, ces entreprises payent aussi la redevance minière aux entités territoriales décentralisées directement impactées par cette exploitation minière. Cette redevance, qui est de plusieurs milliers de dollars américains, permet aux entités territoriales bénéficiaires de réaliser certains projets d'intérêt communautaire. C'est ainsi qu'on a vu par exemple la commune de Dilala construire des hôpitaux, les écoles, acheter les camions anti-incendie, des tracteurs et autres pour les biens de la communauté. L'avènement de ces entreprises a permis aussi la création d'emplois, mais les besoins sont toujours immense. Conséquence, certaines personnes se sont lancées dans l'entrepreneuriat, notamment dans le domaine de la sous-traitance dans le secteur minier. C'est justement cette sous-traitance qui fera l'objet du prochain reportage de cette série. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Chan Algérie 2022, les léopards de la RDC et les éléphants de la Côte d'Ivoire se sont séparés sous la note des 0 buts partout ce mercredi 18 janvier à l'issue du match de la 2e journée du groupe B. Les Léopards totalisent 2 points sur 6 et peuvent encore se qualifier pour les quarts de finale. Le sort des fauves congolais se précisera dimanche 22 janvier 2023 lors de la rencontre contre les Lions de la Teranga du Sénégal.
Actualité internationale.
L'Italie se dit prête à accueillir plus d'immigrés en provenance de la Tunisie, mais sous certaines conditions. Lors d'une rencontre avec des membres du gouvernement tunisien, dont le président Kais Saied à Tunis le 18 janvier, le chef de la diplomatie italienne Antonio Tajani a exigé que plus d'efforts soient mis en place contre l'immigration clandestine. Selon des chiffres officiels italiens, 18 000 Tunisiens sont entrés illégalement en Italie en 2022. Le pays nord-africain est en proie à une grave crise économique avec une inflation supérieure à 10% et la pauvreté touche 20% des 12 millions d'habitants du pays. L'un des fils du président de Guinée équatoriale, Rusla Obiang Ntsoué, soupçonné d'avoir vendu un avion de la compagnie aérienne nationale, a été arrêté lundi et placé en résidence surveillée, a annoncé mardi la télévision d'État. Fin novembre, les autorités avaient ouvert une enquête après avoir constaté la disparition de l'appareil ATR-72-500 appartenant à la compagnie nationale Ceiba Intercontinental qui se trouvait depuis 2018 en révision de routine en Espagne, explique la télévision nationale.
L'invité.
Des réformes importantes des services de sécurité et des forces armées de la RDC doivent être engagées afin de leur permettre d'assurer efficacement la protection de l'intégrité du pays. La population doit pour sa part se faire enrôler et participer massivement aux élections prochaines en vue d'élire les dirigeants de leur choix et protéger les résultats des élections. Ceci ressort d'une grande conférence publique animée le mardi à Kisangani par le professeur Alphonse Maindo. Pour en savoir davantage sur cette rencontre, le professeur Alphonse Maindo est notre invité. Il s'entretient avec Jacques Mukonkole.
Professeur Alphonse Maindo, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de tenir une grande conférence publique. Les Nations Unies et les crises congolaises de 1960 à nos jours, un éternel recommencement. Que voulez-vous dire par la professeure?
Ce que nous voulons souligner, c'est que malgré la présence des Nations Unies dans ces pays depuis de longues années, il n'y a pas de solution durable à la crise congolaise. Donc ça signifie qu'il faut changer de paradigme. Il faut que nous puissions maintenant repenser notre sécurité, puisque nous avons vu que l'appui de la MONUSCO n'a pas permis de résoudre les problèmes de base, les problèmes de fonds, alors il faut que nous puissions faire maintenant la vraie réforme de notre secteur de sécurité, parce que c'est de cela qu'il s'agit, pour que nous puissions assurer la sécurité de nos compatriotes, des personnes et des biens.
À quel niveau ça cloche?
Alors, à mon avis, ça cloche à plusieurs niveaux, puisque nous nous sommes endormis sur nos lauriers et nous avons laissé notre système de défense se faire corrompre avec certains officiers affairistes et qui sacrifient parfois des hommes qui n'arrivent pas à percevoir leur solde et qui détournent même parfois la ration qui doit être distribuée aux combattants qui sont sur le front. Et nous avons aussi des services de renseignement qui ont failli et qui se transforment parfois en agences de recouvrement des dettes et des créances des gens, plutôt que de faire du travail d'intelligence pour analyser les menaces et pouvoir anticiper tout ça. Donc il faut une véritable réforme et aussi la justice qui n'arrive pas à faire le travail qu'il faut pour rendre véritablement le droit à ceux qui ont été victimes, pour que les bourreaux arrêtent de faire ça. Et donc c'est tout ce travail-là qui doit être fait.
La MONUSCO n'a pas vocation à s'éterniser au pays. Elle est venue nous assister, elle est venue nous appuyer.
La MONUSCO, les Nations Unies étaient là pour nous aider. Malheureusement, il n'y a pas eu, si vous voulez, une bonne coopération, un bon partenariat efficace avec la RDC pour pouvoir faire ça. C'est pour ça que, comme tout le monde, nous pensons qu'il faut éviter un éternel recommencement. Nous avions eu l'ONU dans les années 60 et vous savez ce que ça a donné. On n'a pas eu les résultats qui étaient attendus. Il a fallu qu'il y ait aussi des interventions d'autres puissances pour qu'on arrive à stabiliser et qu'on recrée une armée. C'est ce qui a été fait par Mobutu. On a recréé une armée et ce qui a permis finalement de faire partir l'ONU en 64 et on a organisé des élections sans l'ONU. Maintenant, il faut que nous puissions recréer la même chose parce que là, ça fait plus longtemps. La MONUSCO, avec la MONUC et tout ça, ça fait aujourd'hui plus de 20 ans qu'ils sont là. Mais ça, on devait s'interroger. Ils n'ont pas vocation à rester éternellement ici. Mais préparons donc la relève en faisant monter en puissance nos forces de défense et de sécurité.
Lèvons-nous, marchons ensemble. C'est une interpellation directe de la population. Que voudrez-vous que la population fasse?
Alors, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'une nation en danger. Et notre nation est en danger comme dans les années 60, à l'époque de Patrice Emery Lumumba. Ce qui a amené Patrice Emery Lumumba à s'élever avec les autres et à marcher pour pouvoir lutter pour que notre pays recouvre sa dignité qui est est la justice, qui est la liberté pour les gens. Et aujourd'hui, nous sommes plus que cela. Et nous sommes donc dans une situation où l'unité du pays est menacée. Nous sommes menacés de balkanisation. Rien qu'à l'est ici, au nord Kivu, vous avez vu même les troupes qui sont venues ici pour chasser les M23 sont venues en train de se transformer pratiquement en force d'interposition pour empêcher nos forces de défense et de sécurité d'accéder dans ces zones qu'occupent les M23. Et ils font une espèce de zone tampon de fête dans la région. Et donc, il faut que nous puissions, puisque lorsque la nation est en danger, tout le citoyen, notre constitution, l'article 64, nous impose l'obligation de pouvoir nous mobiliser, de pouvoir nous organiser pour faire face à cette menace, à ces dangers. Et c'est pour ça que nous demandons ça. Et pour nous, cette levée de notre peuple pour marcher, ça doit se faire profiter de cette année qui est une année électorale, donc de tous les enjeux. Nous appelons donc la population à pouvoir se faire enrôler massivement et aussi à aller voter massivement. Et bien mieux encore, à pouvoir être prêts à défendre leurs résultats électoraux, y compris en occupant les rues. Et c'est ce que nous voulons appeler quand nous disons « lèvons-nous et marchons », parce qu'il faut qu'il y ait une véritable révolution démocratique. Nous sommes pour une révolution démocratique, il veut dire que c'est le peuple qui va saisir des urnes, l'occasion nous est donnée cette année, pour pouvoir changer et donner à ce pays le grand destin qu'il mérite depuis de longues années.
Merci, professeur.
Je vous en prie.
Ça en est ainsi fini avec cette édition de journal sur Radio Okapi, journal préparé par Alain Hirung et l'ensemble de toute la rédaction. Jean-Claude Tiala a assuré la prise des soins et la mise en onde, et Billy Ivan Lutumba vous l'a présenté. Au nom de toute cette équipe, nous vous disons sincèrement merci pour votre fidélité.